Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue en direct du comité Maniga pour les échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère 88.4 et en DAB+. Bien sûr, vous pouvez nous écouter aussi sur www.radiogalère.org. À l'animation aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Guy depuis quelques mois maintenant.
Oui, bonjour à tout le monde.
Et moi, Jean-Marc, bien sûr. Alors, nous avons avec nous notre fidèle technicien à la personne de Sidi Diallo, qui est là depuis quelques années, émission de technicien de Radio Galère, et sans oublier notre inénarrable Saïda, la voix des échos, n'est-ce pas Saïda? Bonjour Saïda.
Bonjour Jean-Marc.
Alors aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un peu d'air. Un peu d'air et comment respirer autrement. Il s'agit de savoir marcher, de promener, prendre du temps pour soi, mais aussi faire des rencontres, partager des expériences en famille et prendre soin de sa santé physique comme mentale. Et contrairement à ce que l'on imagine parfois, nul besoin d'aller très loin. À quelques pas de chez nous, nos territoires regorgent d'espaces naturels, de lieux, de créations et d'initiatives qui donnent envie de vivre autrement notre quartier.
C'est précisément ce que proposent les initiatives que nous allons découvrir. Des projets qui mêlent randonnée, découverte du patrimoine, création artistique et participation des habitants. Des actions qui montrent qu'il est possible de faire autrement, en plaçant l'humain, le partage et la culture au cœur de la vie, de la vie locale. Ces démarches s'inscrivent dans une histoire déjà riche d'engagement. Depuis plusieurs années, des initiatives portées notamment par l'équipe d'animation de la Maison de la Famille et des associations autour d'une animatrice militante ont impulsé une dynamique de découverte de la nature, de l'environnement, de nos quartiers populaires et dans toute leur diversité. Aujourd'hui, cette dynamique se poursuit avec d'autres auteurs, sous d'autres formes, avec la même ambition, permettre à chacun et à chacune de s'approprier son territoire, de créer du lien, de s'émanciper, de faire vivre une culture de proximité accessible à toutes les générations. Pendant 7h30, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui portent ces projets. Ils nous expliqueront comment la marche, la découverte de notre environnement et la pratique artistique peuvent devenir de véritables leviers d'émancipation, de bien-être et de citoyenneté.
Alors restez à notre écoute. Les échos du Grand Saint-Barthélemy vous emmènent aujourd'hui sur les sentiers de la découverte, de la rencontre et de la création artistique. Place maintenant à notre coup de cœur musical, aux arbres citoyens.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De l'air en bas, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses.
Oh, ça, citoyen.
Il est grand temps qu'on propose.
Un
aux citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses.
Oh, ça, citoyens.
Il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Puisqu'il faut changer les choses.
Oh, ça, citoyens.
Il est grand temps qu'on s'oppose
un monde pour demain.
Sous les eaux, maintenant on s'en bat.
Ce titre s'accorde parfaitement avec le thème de notre émission. À travers un message fort, Yannick Noah s'implique en faveur de la nature, de l'engagement citoyen et de la préservation de notre environnement. Aux Arbres Citoyens nous invite à apporter un regard différent sur le monde qui nous entoure. Vous êtes toujours à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4 FM et en DAB+. Nous vous proposons une émission intitulée « Des sentiers aux ateliers ».
Nous partons donc à la rencontre des acteurs du territoire et chacun leur tour. Le bureau des guides du GR 2013 organise des randonnées qui permettent aux familles et aux habitants et aux habitantes de découvrir les paysages qui entourent le quartier, de partager les moments conviviaux et de porter un autre regard sur leur environnement. À l'ensemble artistique de Tour Sainte qui fait vivre un lieu de création et de rencontre où l'art et les ateliers deviennent un moyen d'échange, d'expression, de participation pour tous et toutes. Si leurs approches sont différentes, leur ambition est commune. Renforcer les rencontres, encourager le pouvoir d'agir des habitants, des habitantes, ouvrir le quartier sur son environnement. Pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui Antoine Yonnet du bureau des guides du GR 2013, ainsi que Mamie Timrich et Lys Jouve de l'ensemble artistique de Tour Sainte.
Et oui, nous allons poursuivre pendant 7h30 avec eux. Nous allons découvrir un peu quelles sont ces deux structures qui sont, à mon sens, récentes compte tenu de l'âge du comité Maïga. Nous sommes créés depuis 1998, donc il y a certains d'entre vous qui ne sont pas nés, n'est-ce pas? Peut-être Antoine, Lise, bon, ou voire Alma aussi. Donc nous allons démarrer par le bureau des guides, GR 2013. Alors, bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, qu'est-ce que c'est le bureau?
Alors, le bureau des guides du GR 2013, c'est une association qui a été fondée en 2014 et autour d'un objet qui s'appelle le GR 2013. Donc un GR, c'est un sentier de grande randonnée. Et ce sentier, il a pour particularité d'être métropolitain, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de boucle, il dessine une sorte de boucle autour de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et l'idée du sentier, il y en a un peu deux. C'est d'une part qu'on puisse le faire en transport en commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un très grand randonneur ou une très grande randonneuse pour pouvoir partir marcher sur ce sentier. On peut très bien prendre le train pour arriver à la gare de Croix-Sainte à Martigues pour ensuite repartir à Port-de-Bouc un peu plus loin. Et la seconde idée de ce sentier, c'est que plutôt que de partir loin dans les calanques ou comme le font beaucoup d'autres sentiers. L'idée, c'est plutôt de partir sur ce qu'il y a à côté de chez nous. Alors, ce qui, du point de vue de la Fédération française de randonnée, au début, était difficile à accepter, ce qui fait qu'on a souvent été appelé le sentier le plus moche du monde. Mais je vous assure qu'il est très beau. Et en fait, l'idée, c'est que on passe tout simplement à côté des endroits où on habite, on croise nos voisins, on croise les quartiers qui nous entourent, on croise aussi les usines qui nous entourent, les friches industrielles qui nous entourent, les différentes infrastructures, le canal de Marseille, les voies de chemin de fer, les autoroutes, pour voir un peu tous ces paysages. Généralement, on passe à côté en voiture, on n'y prête pas forcément attention, tandis que quand on y passe à pied, c'est l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il y ait la A7 qui arrive en plein milieu de Marseille, par exemple, qu'il y ait telle autoroute qui passe à côté de chez nous. Comment est-ce qu'on en arrive là et qu'est-ce qu'on fait avec ces paysages-là? Et donc, le bureau des guides organise des balades. Et ces balades, elles ont toutes comme support le sentier du GR. Mais c'est toujours un peu un prétexte parce que nous, nos balades, en fait, c'est des gros processus de création, les balades, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes à faire pour aller sur un territoire, rencontrer les acteurs, rencontrer les habitants, se poser la question de quels enjeux il y a à porter au cours de ces balades. Et elles ont toutes en commun, généralement, d'être polyphoniques, c'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui viennent s'exprimer quand on fait ces balades-là. Et juste pour un petit dernier élément, nous, on est souvent nomades, c'est-à-dire qu'on est métropolitain, comme je l'ai dit, mais on a des zones dans lesquelles on est plus impliqué que d'autres. On appelle ça des zones à ménager, des ZAM, parce qu'on les aime bien. Et donc, c'est des endroits où on est plus sédentaire, on va dire. Et donc, ces zones, il y en a trois. C'est l'étang de Berre, parce qu'on a beaucoup aimé le patrimoine industriel de l'étang de Berre, et c'est vraiment une zone qui nous questionne beaucoup sur comment nous, êtres humains, on habite des lieux et qu'on anthropise, enfin qu'on change un peu, c'est assez intéressant. Il y a le ruisseau des Égalades, Mais il y a aussi le côté un peu étang-de-berre avec le ruisseau des Égalades, parce que c'est un lieu auquel beaucoup de gens sont attachés. En même temps, il est très pollué, il est entouré de beaucoup d'usines, de décharges. Et en fait, il a une histoire assez dingue. Il nous permet de remonter un peu dans le temps de Marseille et imaginer un peu qu'est-ce que c'était d'habiter à bord du ruisseau avant qu'on trace l'autoroute et qu'on creuse la carrière Lafarge un peu plus loin à sa source. Et la dernière zone, elle est à côté d'ici, c'est les Hauts-de-Sainte-Marthe, parce que les membres fondateurs du Bureau des Guides, dont je ne fais pas partie, je ne suis que l'archiviste, eh bien, en fait, ils ont en commun que quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont été tous très marqués par un événement qui a eu lieu dans les Hauts-de-Sainte-Marthe au début des années 2000. C'était, pour contextualiser, c'était un territoire qui était encore très fortement agricole, peu urbanisé. Et au début des années 2000, il était question de réviser le plan d'occupation des sols pour aménager des résidences, des immeubles, plein de choses. Ce qui a déclenché beaucoup de réactions de la part des habitants de Sainte-Marthe, mais aussi de la part de chercheurs et d'artistes qui étaient très concernés par ce territoire-là, qui était un peu une des dernières reliques de l'agriculture en ville, ce qui était quelque chose pour eux d'important à préserver. Et en fait, ils ont été très marqués parce qu'en 2002, il y a une association qui s'appelle AREN qui a organisé un festival qui s'appelle L'Art des Lieux, dans lequel ils ont essayé d'organiser à peu près 300 performances artistiques sur le territoire de Sainte-Marthe pour mettre un peu en dialogue, mettre en débat et faire connaître les enjeux de ce territoire-là à la population plus vaste de Marseille, parce que c'est vrai qu'avant ce festival-là, le problème était qu'à part les habitants du noyau villageois de Sainte-Marthe, il y avait peu de personnes qui étaient concernées ou attachées à ces paysages-là, parfois qui ne les connaissaient pas. Et donc, à travers cette démarche qui mêlait un peu art, urbanisme et militantisme, ça a beaucoup motivé les membres fondateurs du Bureau des Guides à continuer un peu ce truc-là. Et on continue encore aujourd'hui à faire ça. Donc oui, on marche dans la ville et on parle.
Alors, si nous comprenons bien entre les lignes, nous pouvons dire que c'est une association. Quelle est sa composition? Quel est le président, la présidente? Et surtout ton rôle, ta fonction au sein de cette structure?
Alors, on est une association loi 1901. Le président, le presidente, c'est Loïc Magnan, qui est plus participant du Bureau des Guides. Maintenant, il dirige la FEAR, qui est la formation des arts de la rue à la Cité des arts de la rue. Le bureau, j'ai pas tous les membres en tête, mais il y a on va dire les proches et les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont inspiré la démarche. Donc on a Christine Breton, Sandro Piscopo, Pierre-Alain Cardona, Baptiste Anaspez, je crois, enfin bref, je sais plus exactement, il y en a beaucoup. Et moi, mon rôle au sein de l'association, on est tous un peu... On est tous un peu polyvalents, couteau suisse au Bureau des Guides, mais moi, on va dire que initialement c'était plus sur l'animation de balades, donc notamment sur le fait de faire des performances. Bref, je suis arrivé au Bureau des Guides en imitant une huître sur l'étang de Berre pour des enfants et ça avait bien marché. Bref, elles m'ont gardé après ça. Et maintenant, c'est plus une. Enfin, je fais toujours de l'animation de balades. Maintenant, c'est plus sur le côté de l'archive et de la formalisation de contenu. Et c'est aussi comme ça que j'ai fini par vous rencontrer au comité Maméga, parce que vous avez quand même de très 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 belles archives.
Eh bien, merci Antoine. Nous allons passer à Mamie et Elise. Alors, l'un et l'autre, pouvez-vous présenter un peu l'ensemble artistique de Tour Sainte, son fonctionnement, sa composition, mais aussi son histoire, avec une particularité du lieu où vous menez vos actions. Alors, tu laisses la parole à Alice, c'est ce que je vois. J'observe. Non, comme vous voulez, chacun...
Elle a simplement décidé de prendre la parole.
Elle a bien raison. Et j'ai oublié de remercier Alma d'avoir pu participer à sa façon aussi à l'émission, mais elle pourra revenir. Nous recherchons des bénévoles et c'est toujours bien d'avoir un peu plus de dames parmi nous.
Alors, Ensemble Artistique Tour Sainte, c'est une association qui existe depuis 2015. C'est un regroupement d'associations, en fait, avec il y a HAS, Habitat Alternatif Social, le Secours Catholique, Culture Hôpital et d'autres associations qui sont parties depuis, qui se sont rassemblées donc à l'église de Tour Sainte, qui est désacralisée, et qui ont créé cette association. Donc c'est un lieu culturel, un lieu de rencontre aussi, qui propose à la fois une école artistique, notamment en période scolaire, les mercredis après-midi, avec des cours de danse, des cours d'art plastique, des cours de musique, de cuisine, en lien avec le jardin qui est derrière l'église, où les enfants vont librement entre chaque activité, ils sont maîtres de leur emploi du temps. On propose également différents événements, des concerts, des spectacles, des événements lancés par certains habitants qui nous demandent de faire une soirée sous un thème. Par exemple, les jeux de société, ça a été déjà fait. Et il y a un dernier axe qui est la santé mentale autour du projet ARTAM. C'est des séances d'art-thérapie avec des psychologues et art-thérapeutes qui accompagnent les enfants pendant différentes séances. Il y en a eu à la fois dans à Tours Sainte, mais également avec l'école de la Morlette. Et l'année prochaine, ça va se développer dans différents lieux. Je ne sais pas si Mamie, tu veux... Oui. Compléter.
Mais revenons un peu à l'histoire. Un peu d'histoire fait toujours du bien, à savoir comment une église peut-elle être désacralisée et comment vous vous êtes arrivé à vous retrouver dans ce lieu. Et depuis quelle année? Depuis combien de temps?
Alors, l'église, en tout cas, l'église elle a été désacralisée, mais là, ça, c'est pas de notre volonté. Hein, donc, c'est... ce que je voulais quand même rajouter, c'est que l'église de Tours Sainte, hein, donc... appartient toujours, en tout cas, à la congrégation de la mission des Lazaristes. Hein, les frères Lazaristes, ils sont toujours propriétaires du domaine. Et ils nous l'ont confié. Ils nous l'ont confié en 2015, le 15 juin 2015, à un groupe de responsables associatifs à l'époque. Et quand on a reçu les clés, une semaine avant, le 15 juin, 2015, on a créé l'association une semaine après. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a créé une association une semaine après. Au départ, on partait donc sur le concept d'une archipel. On voulait que justement ces associations, membres fondatrices, comme HAS, comme le Secours catholique, les propriétaires, qui est la congrégation de la mission de Lazaristes, qui font partie en tout cas de l'association, ainsi que Culture Hôpital, il y avait Larry, il y avait Artema, donc une association qui accompagne en tout cas des étudiants en formation en travail social au sein de l'IRTS. Il y avait quand même quelques associations qui étaient bien présentes. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, chouette, mettre en place donc un projet autour de la culture. Les Hauts de Sainte-Marthe, en tout cas, pas très loin de la cité La Paternelle, les Micocolliers, le Castellas, la Simiane, donc... voilà. Et on partait simplement sur trois axes au départ, hein, qui étaient de la mise à disposition, en tout cas on voulait mettre à disponibilité ce lieu, en tout cas au sein des associations, les centres sociaux, parce que souvent on pensait qu'il manquait de grands espaces. Nous on a un espace quand même de 700 mètres carrés, avec une salle quand même qui peut accueillir 200 personnes debout en tout cas, et 153 personnes assises. On s'est dit tiens, ce lieu pourrait éventuellement être bénéfique en tout cas pour les associations quand ils veulent créer des fêtes et tout. C'est vrai que ça manque de volume, en tout cas dans les quartiers, dans le secteur. Hein, il n'y a pas assez d'espace, en tout cas. Et on voulait que ce lieu soit aussi une résidence d'artistes. Hein. Donc, permet justement des associations, en tout cas des artistes, à venir, séjourner, le temps de créer une œuvre, mais surtout créer avec les habitants, qui n'est pas évident aussi. Hein, créer, en tout cas, un artiste qui réalise son œuvre, mais aussi avec la présence des habitants, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, voilà quoi. Okay. Et le troisième axe, c'était de permettre donc que ce lieu soit aussi un lieu où des petites entreprises, en tout cas des personnes qui veulent créer leur entreprise, hein, puissent éventuellement venir et partager éventuellement les locaux. Voilà, on était parti là-dessus. En 2022, après avoir commencé, parce qu'il a fallu qu'on obtienne donc le RP et le PMR, établissement recevant du public, ou PMR pour les personnes à mobilité réduite, on l'a obtenu que fin 2022 parce qu'il a fallu trouver des fonds pour sécuriser le lieu. Et quand on a obtenu donc finalement l'autorisation de pouvoir accueillir en tout cas du public, on a commencé à rencontrer d'ailleurs bien sûr les habitants parce qu'on a fait notre première fête de la musique. Le 21 juin 2022, et là il y a des habitants qui sont venus, mais des habitants uniquement autour de Tours Sainte, donc toutes les maisons pavillonnaires. Et on leur a posé la question sur l'accès à la pratique artistique pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Et la réponse a été qu'il y a un manque ou pas de structure, en tout cas reconnaissable, en tout cas sur le territoire, parce que je crois qu'il y a un problème de communication, en tout cas sur le territoire.
Il y a plein de belles initiatives, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'outils aujourd'hui pouvant être communiqués auprès des habitants, en tout cas des familles, pour leur tenir en tout cas informés de tout ce qui se passe. Et là, à partir de là, on s'est dit, mais on va créer une école artistique. En tout cas, une école où des enfants, mais aussi des adultes, puissent avoir une pratique musicale, apprendre des cours de guitare, de piano, de violon, des instruments avant, des cours de danse, des cours de théâtre. Mais en même temps, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y a, je dirais, un désert total au niveau de l'accès à la culture dans les quartiers nord. Parce que je me rappelle, il y a 40 ans en arrière, dans les centres sociaux, il y avait des cours de musique. Il y avait des cours de guitare, il y avait des cours de piano, il y avait des cours de théâtre, des cours de danse. Et là, 40 ans après, j'ai l'impression qu'on est dans un secteur, en tout cas le secteur de Sainte-Marthe, abandonné. Je ne sais pas si on peut le dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a un manque d'infrastructures, justement, permettre à l'accès à des pratiques artistiques, oui. De manière générale.
Oui. Voilà. Sur le quartier, par exemple, il y a, nous sommes nous-mêmes aussi interpellés par des familles lorsqu'il y a un deuil. Parce qu'il n'y a pas de lieu, bon, notamment pour les familles, pour se réunir la famille. Et nous observons que, tant pour les mariages, pour les deuils ou autres, c'est qu'il y a une absence totale de lieu, parce que les centres sociaux sont interpellés. Mais ils disent qu'il y a trop de responsabilités, il y a trop de choses à mettre en place. Lorsque nous sommes interpellés pour un deuil dans une famille ici, pour une famille, quelqu'un qui est décédé, nous demandent est-ce que nous pourrons les accueillir dans notre local. Nous disons que nous ne pouvons pas le faire compte tenu de l'exiguïté des lieux et que nous ne sommes pas forcément habilités. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de pouvoir aussi réfléchir, compte tenu de l'espace que tu décris, de ce lieu qui puisse accueillir aussi des familles pour certains moments importants de leur vie? Je ne sais pas, ça fait partie d'une réflexion que j'ai en vous écoutant.
C'est une question que je ne me suis jamais posée jusqu'à présent, parce que pour moi c'était complètement acquis. Parce qu'à l'époque, les centres sociaux ouvraient leurs portes justement pour des mariages, pour des naissances et surtout pour des décès aussi. Donc c'est vrai que les appartements, des fois, ne s'apprêtent pas à recevoir donc, des grandes familles. Nous, à Tour Sainte, il y a une personne qui est venue nous voir il y a 3 ans de ça, parce qu'elle a perdu son frère. Et elle nous a dit, voilà, moi, mon appartement, il est petit, je viens de perdre mon frère, on est une grande famille. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, est-ce que je peux recevoir ma famille ici? Et sans hésitation, je dis oui. Mais on l'a jamais, en tout cas, on s'est jamais questionné, quoi. Sur après, la seule chose sur laquelle on s'est positionné, c'est les mariages, les baptêmes, parce qu'on est quand même un lieu culturel où on est censé, normalement, nous, c'est pas qu'on est censé, c'est qu'on l'est. On ouvre les week-ends, on est ouvert, en tout cas, on est présent les week-ends et les soirs après l'école. Voilà, jusqu'à 20h, et les week-ends, on essaie donc de mettre en place toute une programmation artistique, y compris donc les samedis soirs et les dimanches soirs. Voilà. Donc, c'est difficile de pouvoir à un moment donné, en tout cas, offrir, en tout cas, bénéficier à une famille, un mariage. Et surtout qu'on sait très bien que si on dit oui à une personne, sachant que moi, je suis originaire du quartier, hein, je suis un enfant de Sainte-Marthe, et je sais très bien que si je dis oui à une famille, je vais avoir toutes les autres familles qui vont me courir derrière en disant bah, « Tu l'as dit, tu as autorisé une famille, et donc moi, tu me dis non,
oui,
donc
savons,
ça va être, c'est compliqué à gérer. »
Nous connaissons effectivement toutes
mais,
ces difficultés.
Mais à l'époque, il y avait aussi la maison des familles hein, qui était donc... une structure qui... Il y avait deux belles grandes salles, et ils existent d'ailleurs toujours. Hein, qui,
Oui, effectivement, la MFA est en travaux aussi, il faut dire, et que cela est difficile parce qu'il faut arriver à gérer. Et comme tu le dis, quand on accepte une famille, il faut accepter à tout le monde après, pour qu'ils ne puissent pas avoir forcément des conflits.
Je voulais quand même rajouter quand même que moi, je ne pourrais jamais refuser l'accès du lieu... En tout cas, à une famille qui va me dire, voilà, moi, je viens de perdre un membre de famille, j'ai une grande famille, est-ce qu'on peut éventuellement... ça, je ne pourrais jamais dire non, quoi. La question ne se pose pas, d'ailleurs.
Voilà. Est-ce que nous pourrions communiquer l'information que tu nous délivres aussi, parce qu'on nous interpelle aussi pour savoir un peu quels sont les lieux qui sont accessibles pour leur permettre de réunir leur famille. Puis après, ça sera voir les conditions avec vous aussi.
Ouais, je ne voulais pas forcément l'annoncer comme ça, oui, hein, mais en tout cas, moi, je sais que je ne pourrais jamais fermer la porte. En tout cas, je peux pas. Je peux pas, possible. Pas possible.
Nous sommes d'accord, effectivement. C'est bien cette forme de solidarité que nous essayons de développer aussi. Et dernière question pour tous les deux. Quelles sont vos fonctions dans ces structures associatives, respectivement?
Moi, je suis en stage à Tour Sainte. C'est un stage de médiation culturelle, mais ça va un peu au-delà. Je participe à toutes les actions, toutes les activités de l'association et à son organisation.
Mamie ?
Donc moi, je suis quand même membre fondateur, en tout cas, de cette association, parce que j'y suis depuis 2015. J'ai passé beaucoup de temps depuis 2015 dans ce lieu. Je suis salarié depuis 2024. Et quand on dit que la terre est nourricière, c'est que nous avons un magnifique jardin derrière l'église de Tour Sainte, donc un potager qui fait 1200 mètres carrés. Et on a pu avoir un financement, et je tiens quand même à remercier Issa Schiff et Sébastien Barle, même s'ils ne sont plus élus aujourd'hui, qui nous ont soutenus en nous donnant donc notre première subvention de fonctionnement qui a permis à l'association de me salarier. Moi, parce qu'en tout cas, moi, je n'étais pas... Je n'étais pas parti pour être salarié de l'association, mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, donc je suis salarié depuis 2024. Et voilà, et quand on dit que c'est que Sébastien Barlet et HS Sif étaient donc élus à la transition écologique et à l'alimentation durable. C'est pour ça que je dis que la terre est nourricière. D'accord. C'est parce que si on n'avait pas eu un jardin derrière, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir en tout cas, une subvention de fonctionnement pour pouvoir ouvrir tous les jours, en tout cas, pour ouvrir tous les jours ce lieu. Ce que disait Élise là par rapport à Alice, par rapport à l'église désacralisée, en tout cas de Tour Sainte, ouais, je tiens quand même à le dire, ce n'est plus une église. Elle a été désacralisée. C'est vrai qu'elle a toujours l'apparence d'une église, et maintenant c'est devenu la maison de la culture. Donc toute personne peut venir à sa convenance, venir dans ce lieu. C'est un lieu qui est ouvert. C'est un lieu qui est financé, et je ne vais pas le dire maintenant, et je crois que je ne vais pas le dire tout seul, mais en tout cas, il y a des subventions des collectivités, et je vais arrêter là parce que je ne vais pas dire plus. Donc ça veut dire que toute personne peut venir dans ce lieu et bénéficier de tout ce qui se passe en tout cas dans ce lieu.
D'accord.
Pas que forcément que des associations, des habitants, des collectifs d'habitants. On a une magnifique cuisine qui est adaptée, qui a été financée entre autres... je vais le dire par nos impôts. donc une cuisine qui est ouverte. Donc toute personne qui peut venir éventuellement partager un moment, en tout cas agréable, partager des recettes, en tout cas de cuisine, partager un repas, c'est possible. Utiliser le lieu, c'est possible aussi. Voilà.
Dernière question qui me tient aussi à cœur, c'est à savoir quel est le lien. Avez-vous des liens avec l'école catholique de Tour Sainte ? Qui se trouve juste en face, c'est ça, si je ne m'abuse, si j'ai un peu de mémoire.
Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais et de Marseillaises qui pensent que l'église de Tour Sainte et l'église de Tour Sainte sont liées. Non, l'église, elle a une identité à part, en tout cas, et l'école de Tour Sainte, pareil. Hein. Oui, on est à côté, on travaille ensemble, on met en place des projets communs, donc, et j'espère que ça va continuer et s'amplifier d'ailleurs. Voilà, mais il n'y a pas de en tout cas, il n'y a pas de lien particulier. Ouais, nous sommes deux identités différentes. Ouais.
Ok, merci d'avoir répondu à ces premières questions. Nous allons reprendre un peu avec Antoine pour qu'il puisse nous parler à nouveau concernant le territoire du Grand Saint-Barthélemy. Comment cela se passe-t-il ? Proposition de randonnée, tu as évoqué le fait que tu sois venu une première fois avec des familles pour voir un peu l'exposition sur la création du Grand Saint-Barthélemy dans les locaux de Maméga. Est-ce que cela poursuivit dans ce cheminement que tu as eu ? Comment les choses se passent ? Et les premiers pas dans...
C'est-à-dire, tu veux dire, est-ce que comment on marche
Tout à fait.
Enfin, ça dépend.
Pour faire découvrir le Grand Saint-Barthélemy, le territoire.
Ouais, j'ai surtout parlé de ma perspective parce que c'est vrai que c'est différent pour chacun et chacune. Mais quand on était venu avec des familles chez vous au comité Maméga, ouais, c'était très bien parce qu'on menait un travail sur justement avec le centre social de l'Agora, avec un groupe de femmes sur se balader à côté de chez soi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir juste à côté de son quartier, voilà. Et donc on était passé à Maméga parce que c'est vrai que votre exposition, je l'avais déjà vue de loin, mais c'était quand même mieux en vrai. Et puis ça fait toujours un effet quand on croise cet endroit-là, et ça donne un peu une épaisseur au lieu.
notamment nous, il y a un truc sur lequel on est assez sensible quand on construit les balades, et notamment au Grand Saint-Barthélemy, c'est que comme tu dis, en arrivant on ne peut pas ne pas voir les tours, les bars, mais comme on a quand même une certaine appétence pour l'architecture et l'urbanisme, et que généralement ça paraît toujours être des trucs un peu élitistes, très intellectuels, tout ça, on essaye quand même de partager ce goût-là et de voir autre chose que simplement des tours et des bars quand on arrive dans le Grand Saint-Barthélemy. Et donc ça peut passer par un regard architectural sur les techniques de construction, sur le lien avec la colline, comment elle a été plus ou moins trouée, comment est-ce qu'il y a eu plus ou moins des conservations qu'on puisse faire, notamment du côté des oliviers et des lauriers. Enfin, ça passe un peu par une sorte d'observation de ce qu'on a juste à côté de chez nous et qu'on ne voit pas forcément parce qu'on le voit tous les jours. C'est essayer de le regarder différemment. Et puis surtout, ça passe vraiment aussi par le travail de l'histoire qu'il y a derrière, et c'est pour ça que chez vous, c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup une fois de plus, mais bon voilà, une fois de plus, moi j'adore les archives, donc forcément. Et c'est qu'en fait, quant à l'histoire des gens qui sont derrière, et en fait tu vois comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils ont lutté pour pouvoir accéder à un autre cadre de vie, comment ça a plus ou moins pu faire partenariat avec les institutions ou pas, enfin quels ont été un peu les cheminements. En fait, tout de suite, moi personnellement, ça me touchait beaucoup, quoi, parce que tu vois à Marseille, moi je suis pas marseillais de base, voilà, mais à coup le pas, je suis à Marseille depuis 6 ans, et je suis originaire de Reims, donc dans le Nord.
Oh le malheureux.
Oui, je sais.
Oh pêcheur.
Et en fait, dans le Nord, tout est plat, et tout est uniforme, enfin bref, je caricature, mais c'est vrai que tout est plat. Tandis qu'à Marseille, ce qui est assez dingue, c'est que d'une part, t'as le relief, qui fait qu'avec les collines qui sont plus parfois trouées, en fait tu vois que les collines ont été trouées, parfois tu vois les anciens, dans les Hauts-de-Sainte-Marthe, tu vois les anciennes fermes qui sont faites en terrasse, tu vois plein de petites ruines comme ça. Ce qui fait quand même, c'est une ville qui est super lisible. C'est-à-dire même dans le bon comme dans le mauvais, parce que même au point de vue des injustices ou des différentes ségrégations spatiales qui peuvent exister, tout est très lisible. Et ce qui permet vraiment de le partager, ce qui permet vraiment, je trouve, de le partager. Donc il y a ce côté-là. Et alors après, pour répondre, c'est vrai que sur le, de base, c'était sur les questions des cheminements dans le Grand Saint-Barthélemy. En fait, ça dépend pas que de nous. En fait, ça dépend vachement des gens avec qui on marche. Et donc, dans les personnes avec qui on marche beaucoup, il se trouve que c'est souvent beaucoup de femmes. Et les femmes des quartiers, alors c'est leur regard. Moi, c'est mon expérience. C'est bon, c'est souvent été dans ce cas-là. Et en fait, il y a plein de gestes qui émergent. Et donc, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était les gestes de cueillette, ou que ce soit à fond vert, ou même un peu plus haut dans les traverses. Je sais pas, tu découvres un tas de plantes, tu découvres un tas d'usages que tu peux faire des plantes. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que ça se transmet vachement aux jeunes, quoi. Les jeunes, ça les intéresse vachement de voir. Pareil, on parlait d'épaisseur historique avec l'histoire des grandes barres. Mais en fait, à travers l'histoire des plantes que tu croises, celles qui ont été plantées récemment pour faire des allées d'arbres, les micocouliers, les platanes, ou les plantes qui se développent sur les ruines, les fenouilles, les coquelicots, etc. En fait, tu découvres, pareil, tout un... T'arrives à regarder autrement ce qui t'entoure au quotidien. Et après, sinon, pour retourner une fois de plus sur la question des cheminements dans le Grand Saint-Barthélemy, nous, souvent, on le perçoit un peu... Enfin, moi, en tout cas, je le perçois vraiment... Notre sentier, il arrive en face de l'Agora, à côté de la gare Picon-Busserine, parce que, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sentier est faisable depuis les endroits de transport en commun. Et il va jusqu'à Fontvert avant de bifurquer vers Saint-Just, et il arrive des Hauts-de-Sainte-Marthe. Donc pour moi, effectivement, le Grand Saint-Barthélemy, à chaque fois, c'est un peu une sorte de traversée depuis la campagne des Hauts-de-Sainte-Marthe. Tu descends de la colline, tu descends de la campagne, tu arrives dans cette entre-deux campagne avec le noyau villageois de Sainte-Marthe, la ferme de la Tour des Pins, ça interroge beaucoup. Tu arrives dans l'ancienne ZUP numéro 1 et après tu continues vers le... Enfin, ça fait un peu une grande zone de transition, c'est assez beau quand tu le vis. Et en fait aussi, on est quand même plus attaché au côté ville-colline, ville-campagne, parce qu'on a un lieu dans les Hauts-de-Sainte-Marthe qui s'appelle la Maison Lulle. C'est plus un terrain qu'un lieu, mais dans lequel on essaye justement de mener des missions de pédagogie auprès des enfants. Initialement, c'était vraiment autour des questions d'école dehors, donc comment est-ce qu'on peut faire des classes de collège, de primaire, à l'extérieur. Et en fait, ce terrain de la Maison Lulle, qui est au bout du boulevard Santa Cruz, il est sur un ensemble d'anciennes fermes qui ont été abandonnées justement pour ces fameuses questions d'urbanisation, mais qui aujourd'hui sont réoccupées par une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices urbains et urbaines. Et donc en fait, ces lieux-là, c'est un peu des occasions de reparler du lien qu'on a à la campagne, du lien qu'il y a au territoire avant, de voir depuis la colline la vue de la mer, enfin la vue sur la ville qui descend jusqu'à la mer. C'est un peu un grand... En fait, je sais pas, sur le Grand Saint-Barthélemy, t'as vraiment tout, je trouve, sur Marseille, quoi. C'est assez dingue.
Mais nous, ce que nous pouvons observer... Tu veux intervenir, Amir?
Oui. Nous avons organisé notre première balade avec les bureaux des guides.
Oui.
C'était le 6 mai 2022. Ouais. 2022, déjà, 2022. Oui, ça remonte. Mais ce qui était intéressant, c'est quand on est parti voir donc, le terrain qui est derrière, en tout cas, l'église de Tour Sainte. Moi, je ne le savais pas, parce que... Ouais, c'est... Mais... En marchant, il y a des plantes qui poussent naturellement. Et, finalement, avec l'information qu'on a pu avoir, en tout cas, cette période-là, c'est que toutes les plantes, en tout cas, une bonne partie des plantes qui poussent naturellement, sont comestibles. Donc, c'est de la bouffe, quoi. Moi, ce que je dis aux enfants aujourd'hui, là, quand ils vont dans le terrain, faites gaffe, parce que là, vous marchez sur la bouffe, là, parce que tout se mange, pratiquement.
bonne information. C'est Saïda qui pourrait aussi en parler, mais ça sera un autre moment. Ce que je voudrais savoir, parce qu'à partir des observations que nous faisons sur le terrain, c'est qu'il y a certaines familles qui ne savent même pas où se trouve le port de fond obscur. Ils ne sont même pas allés, ne se sont jamais déplacés là-bas, n'est-ce pas, Saïda? Et que cela nous semble être extrêmement étrange, alors que le parc se trouve juste en face de ce grand magasin dont je ne tirais le nom, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est important de pouvoir dire que cela peut exister, qu'il y a une façon de découvrir autrement aussi le quartier, l'environnement, et que cela prête, en allant chercher de la bouffe, comme tu le dis, aussi en se promenant, parce que Saïda, c'est ce qu'elle peut faire aussi, récolter, puisque c'est une grande randonneuse aussi. Donc, nous allons te laisser la parole. Merci Antoine, nous reviendrons un peu là-dessus tout à l'heure.
Avant de poursuivre notre émission, nous vous proposons une nouvelle parenthèse musicale. Les échos du Grand Saint-Barthélemy aiment aussi vous faire découvrir d'autres univers sonores. Au-delà du zouk, du compas ou des musiques qui accompagnent souvent les soirées tropicales, aujourd'hui, place au jazz caraïbe. Une musique qui, comme les randonnées ou les ateliers artistiques, est une invitation au voyage, à la rencontre et au métissage des cultures. Nous écoutons maintenant Big In Jazz Collective, un collectif réunissant des musiciens de Martinique, de Guadeloupe et d'Haïti autour d'une même ambition, faire dialoguer les musiques caribéennes et le jazz contemporain.
Notre choix s'est porté sur Concerto pour la fleur de l'eau et l'océan. Et l'oiseau, pardon. J'étais déjà parti. Extrait de l'opus global. Une composition pleine de poésie qui évoque la nature, la contemplation et l'écoute du vivant. Une respiration musicale qui s'accorde parfaitement avec le thème de notre émission. Prendre le temps de marcher, de regarder et de créer. Bonne écoute.
toujours à l'écoute des échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4 d'ABM, bande FM, pardon, et en DAB+ sur Radio Galère et en direct des locaux du comité Maïga. Donc, après avoir découvert les sentiers avec le bureau des guides de JR 2013, nous allons poursuivre donc notre émission en franchissant la porte d'un lieu, ce que l'on vient de faire, même si nous allons poursuivre, que l'on vient de créer, qui est celui de l'ensemble artistique Tour Sainte. Donc, c'est un lieu singulier, tel que l'on a pu entendre tout à l'heure précédemment, qui fait dialoguer les arts, les habitants et le territoire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce dont vous avez parlé aussi, la question de l'art-thérapie, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est extrêmement manquant, absent de nos quartiers, qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent en difficulté, parce que maintenant, avec toutes les nouvelles formulations TDAH, bon, etc., il n'y a pas de lieu où les enfants peuvent être reçus, discuter, rencontrer des professionnels. Donc, je pense aussi que c'est important de pouvoir en parler. Mais avant cela, qu'est-ce que vous avez pensé de ce morceau que nous avons malheureusement été contraints de couper? C'est un peu du jazz, ça ne fait pas partie encore de votre répertoire, mais j'espère qu'un de ces jours, vous pourrez vous ouvrir à ce genre de musique, jazz caribéen ou autre. Je ne sais pas, hein, je pensais, ça fait partie d'une question. Hein. Bon, bref. Donc, nous allons... Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question concernant l'art-thérapie? Parce que cela m'intéresse. Il y en a un qui a pratiqué ça pendant des années, qui vient juste d'arriver. C'est Jean-Pierre avec son association Body & Soul à travers l'expression corporelle, la danse et autres. Qu'est-ce que vous proposez pour nous permettre de pouvoir orienter des familles, voire des enfants, pour pouvoir être aidés aussi? Comment les choses se passent-elles? Jean-Pierre, qui vient juste d'arriver, tu peux parler de l'art-thérapie à l'époque de Body & Soul, mais pour le moment.
Ah. Oui, ben. Oui, ben, déjà, pour dire simplement qu'à Tour Sainte, donc nous, on pratique toutes les musiques, hein, donc les concerts, c'est toutes les musiques, parce qu'on veut faire partager tous les styles de musique. Et dernièrement, donc, on a fait aussi un midi-minuit sur le thème des Antilles. Donc voilà, donc avec de la spécialité antillaise, voilà, ça a duré de midi à minuit. Donc on est vraiment dans tous les dans toutes les cultures, voilà. Et le jazz, bien sûr, hein, c'est des concerts aussi. En tout cas, c'est un style de musique qu'on apprécie énormément et qu'on diffuse énormément à Tour Sainte. Par rapport à l'art-thérapie, nous sommes pas, nous sommes un lieu culturel et on n'est pas un centre de soins. En tout cas, on n'est pas dans la santé proprement dit. Mais c'était suite à des rencontres, en tout cas à des rencontres. J'ai à des sollicitations d'habitants dans les quartiers nord et des sollicitations, en tout cas, d'associations de quartier à l'époque, en 2023, où ils ont interpellé les pouvoirs publics en disant, voilà, nos enfants ont vu des atrocités dans les quartiers nord. Et ils ont même demandé éventuellement qu'il y ait des spécialistes, en tout cas des professionnels de la santé mentale, pouvant éventuellement prendre en charge leurs enfants et pouvoir exprimer à un moment donné ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont entendu, ou ce qu'ils ont entendu de manière permanente par rapport aux tirs de Kalachnikov, en tout cas dans certains quartiers, de manière répétitive, le soir, en journée et autres. Et nous, là, à partir de là, en 2025, donc début 2025, on a réuni en tout cas une art-thérapeute, une psychologue, une pédopsychiatre, et on a écrit un projet. On a écrit un projet autour de la santé mentale, comment accompagner les enfants de 6, 7 jusqu'à 11 ans, 12 ans, parce que notre préoccupation, c'était vraiment les tout-petits, même si la situation, en tout cas, des adolescents reste aussi quelque chose d'important, hein, d'accompagner aussi des jeunes adolescents, des adolescents, et je dirais même des adultes. Hein, voilà. Mais on s'est dit, tiens, on va démarrer avec les enfants. Et voilà, donc nous avons écrit un projet et nous avons demandé, en tout cas on l'a déposé à la ville de Marseille et il a été financé. Donc on a pu avoir une enveloppe financière donc, sur la réduction des risques, et en tout cas les comportements à risque, prévention de la délinquance et réduction des risques. Et ça on le doit à Zoubida Migoni, hein, parce que c'est elle qui nous a financé le projet. Elle y croit, elle y croyait, elle y croit toujours d'ailleurs, même si elle n'est pas élue, elle croit toujours à ce projet. Et on a démarré. Elise, elle l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place donc des ateliers à l'école de la Morlette, dans le 15e, où le directeur était très, très, très ouvert, en tout cas, à la question de la santé mentale. Et il disait même, justement, et il continue à le dire d'ailleurs, que beaucoup d'enfants sont perturbés par rapport aux aléas de la vie, la dureté, la souffrance, les problèmes sociaux, les problèmes des conflits familiaux. les problèmes économiques, mais aussi le harcèlement à l'école, voilà, mais aussi le Covid qui a laissé des traces, le Covid, et aussi la situation qui nous touche, qui nous ont touchés, qui continue d'ailleurs à nous toucher, c'est les réseaux, hein, la présence en tout cas des points de deal en tout cas dans nos quartiers. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé. Hein. Mmh. Eux, ils viennent au monde, et ils viennent dans un monde finalement aujourd'hui qui est incertain, aujourd'hui, oui. Où il y a plein en tout cas plein de d'actions à mettre en place, entre autres la culture, hein, mais pas que la culture, hein, mais en tout cas moi c'est mon univers aujourd'hui, donc c'est pour ça que je la porte et que je la défends. Donc on a écrit ce projet, il a été financé par la ville de Marseille, et là aujourd'hui on a un soutien d'une fondation qui croit énormément à ce projet. Donc on a démarré, comme le disait Lys, avec donc une session. Parce que les sessions durent à peu près 10 ateliers, et ce sont des ateliers qui durent à peu près 1h15, qui sont accompagnés par une psychologue et une art-thérapeute. Et on a fait la même chose à l'école, à l'intérieur de l'école, pendant le temps scolaire. Hein. Ce n'est pas en dehors du temps scolaire, c'est vraiment pendant le temps scolaire. Et à partir de septembre, donc, nous allons développer finalement, en tout cas d'ouvrir d'autres sessions dans différents quartiers. Donc comme au Casselas, sûrement à la Bucherie, à Saint-Barthélemy, la cité qui est en face de la poste de Saint-Barthélemy, avec le centre social donc Fontaine-Saint-Joseph, donc par rapport aux habitants en tout cas de la Morlette et des Micocolliers, parce qu'on aura donc une antenne, en tout cas une session qui va s'ouvrir à l'intérieur de la cité de Casselas. Et bien sûr, une session qui va se faire à Tour Sainte, en tout cas dans les locaux d'Ensemble Artistique Tour Sainte. Ce sont des actions qui sont déjà financées. Elles sont financées par la ville de Marseille, mais elles sont aussi financées, en tout cas portées, par une fondation, hein, qui s'appelle Sinacri, qui a financé. Donc ça veut dire que tout enfant, en tout cas, je m'adresse aux parents, si vous remarquez éventuellement une attitude, en tout cas un comportement changeant, un enfant qui se renferme sur lui-même, ou au contraire, qui a souvent des crises, qui a un comportement un peu, comment dire, comment on pourrait dire ça, hyperactif, si vous voyez éventuellement des changements, vous pouvez éventuellement nous appeler, nous envoyer un mail, pour que vos enfants puissent s'inscrire en tout cas dans une des ateliers accompagnés par des professionnels. Bien sûr, il y a aussi la présence d'un psychiatre, hein, qui coordonne donc le projet aujourd'hui, donc il sera accompagné, et l'idée c'est, on n'a pas la prétention de soigner, mais en tout cas d'essayer de libérer la parole et ensuite éventuellement de pouvoir orienter vers d'autres spécialistes.
Oui, alors.
Et tout ça, c'est offert.
Hein. C'est offert et non gratuit.
Oui, c'est offert. Donc, en tout cas, il n'y aura pas, vous n'avez pas de prestations, d'engagement financier.
Donc, on ne vient pas avec
un engagement, en tout cas, d'être présent et d'avoir justement, cette présence régulière. Mm-hmm. Hein,
ouais. Vous disiez 10 séances, ça peut être renouvelable.
Et les 10 séances peuvent être renouvelables. Ça va être parce que pendant les 10 séances, les parents et les enfants sont vus au début, sont vus à mi-parcours pour faire un point, et ils sont vus à la fin. Et à la fin, bien sûr, si éventuellement l'enfant, en accord avec les parents, mais aussi l'enfant qui décide, hein, donc l'enfant il décide aussi, est-ce qu'il y a besoin ou pas de pouvoir continuer de 2, 3, 4 séances, ça c'est possible, même de 10 séances, voilà, ça c'est possible.
Merci Maddy, nous allons donner la parole à Alice pour qu'elle puisse nous parler des autres actions menées au sein de l'ensemble artistique Tour Sainte. Alors quelles sont les résidences par exemple, pendant combien de temps qu'un artiste peut-il être accueilli, sous quelles modalités et autres, comment les choses peuvent-elles se passer et se dérouler?
Alors effectivement il y a des résidences qui s'organisent à Tour Sainte. Après, le temps de résidence, ça dépend du projet, des artistes, la période, ça dépend. Tout est possible.
C'est théâtre, chant, qu'est-ce qui est proposé? Toute forme culturelle, artistique? C'est plus axé sur des chanteurs, par exemple, qui viennent, des groupes?
Pour les résidences? Mais
pour
ou
les résidences, cours, ce sont des acteurs de théâtre?
Là, je crois qu'il y a principalement eu du théâtre en résidence pour l'instant. Mais ça pourrait être aussi de la musique, du chant. On est ouvert à tout type d'art.
Et les résidences durent combien de temps? Une semaine, 15 jours, combien de temps vous...
Ça dépend vraiment du projet. Ça dépend.
Nous avons déjà eu une, résidence qui a duré 3 mois.
Ah, mais c'est pas mal.
Voilà, donc... Et nous avons eu aussi une résidence à un moment donné d'un compositeur qui est venu écrire et composer sa musique pendant une semaine.
D'accord. Et pour cela, vous disposez aussi de fonds de la DRAC, par exemple, pour accueillir, pour faire cela. Bon, je sais que c'est peut-être un terrain glissant, donc je ne sais pas. Mais je pose tout de même la question.
Je dirais le fait que nous étions donc à l'époque dans la maison du Seigneur, que Dieu vous entende. En tout cas, nous avons fait des... Oui, nous avons sollicité la DRAC pendant 2 ans. Et là, nous avons arrêté parce que chaque fois, donc, apparemment, donc, il n'y a pas assez de fonds pouvant subventionner en tout cas toutes les associations culturelles. Et nous, on ne fait pas partie en tout cas des associations soutenues en tout cas par la DRAC. J'aimerais bien qu'un jour on le soit.
Oui, donc tu souhaitais ajouter quelque chose? Donc depuis 2015, qu'est-ce que vous pensez que votre structure apporte quelque chose de nouveau et contribue à changer le regard des habitants un peu sur notre environnement et des Marseillais, Marseillaises aussi dans son ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le secteur où nous nous trouvons, c'est un secteur en tout cas à mi-parcours entre les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville. C'est aussi les maisons pavillonnaires et c'est aussi des institutions spécialisées qui accompagnent des personnes qui ont un handicap. Et toutes ces personnes finalement habitent un territoire. Ils se croisent, ils ne se rencontrent pas. Et nous on s'est dit, tiens, ce lieu est neutre et on pourrait éventuellement imaginer... Et c'est pas qu'imaginer, aujourd'hui on travaille dessus, essayer finalement que tous ces habitants puissent éventuellement se retrouver, justement ensemble artistique Tour Sainte, apprennent à se connaître et se découvrir et apprendre à se connaître et vivre ensemble. Hein, parce qu'on parle beaucoup du vivre ensemble. Et aussi décloisonner aussi les habitants des quartiers qui ne restent plus finalement enfermés dans leur quartier. C'est bien les animations que sont proposées, hein, au cœur des cités, mais il faudrait peut-être aussi les amener à découvrir autre chose. En tout cas, nous, on s'étend là-dessus. On voudrait que tous les habitants, en tout cas, nous, on n'est pas sectorisé, donc toute personne peut venir chez nous. Il peut habiter le 14e, comme il peut habiter le 11e, ou le 9e, ou le 3e, c'est pareil. Il peut venir aussi et bénéficier, en tout cas, des activités. Tout est ouvert. On a un jardin, c'est accessible. On peut venir à n'importe quel moment, désherber, arroser, planter, récolter, consommer.
Alors, bon, plus largement, alors quel regard portez-vous sur les politiques culturelles? Les associations, notamment les plus modestes, disposent-elles de moyens nécessaires pour proposer une programmation ambitieuse et accessible dans les quartiers populaires? Enfin, quels sont vos projets, les prochains? Y a-t-il des rendez-vous que vous souhaitez partager avec nos auditeurs? Vaste question.
Oui, non. Elle est... C'est vrai que je suis moi-même issu des quartiers populaires. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le projet de Tour Sainte, j'avais quand même cette priorité justement d'accueillir les enfants des quartiers populaires. C'était ma priorité. Mais n'empêche que c'est ma priorité, mais nous, on voudrait accueillir finalement tous les enfants. Tous les enfants ont un droit. À l'accès à des pratiques artistiques. Un droit à l'accès culturel. Et je trouve navrant aujourd'hui qu'ensuite, on était quand même la ville européenne de la culture en 2013. La capitale en plus, donc c'est la capitale de la culture. Et là, je me dis finalement que l'accès à les pratiques artistiques, à la culture de manière générale, on n'est pas encore à la hauteur. Mais pas que dans les quartiers nord de Marseille, hein, dans tout Marseille. Mais c'est vrai que dans le secteur nord, et plus précisément dans le 14e arrondissement, on est pauvre. On est même très, très, très pauvre.
Mais peut-être à cette époque, on a dit capitale de la culture, pour parler de la culture. Puisque c'était un désert avant. Et maintenant, on arrive à parler de culture dans certains quartiers ou quoi, même si c'est mal réparti.
Complètement. Voilà. Et parler aussi des cultures, la culture et des cultures, et comment réunir finalement les différentes cultures.
Mais c'était le mot interdit avant culture. Ou pas pratiqué, quoi.
Pas pratiqué, interdit, voilà. Je sais pas. En tout cas, on se l'a interdit parce qu'on a l'impression justement qu'il n'y a rien fait, en tout cas.
On a découvert ce mot culture en 2013, j'ai l'impression.
Je pense, ouais, beaucoup, en tout cas, on lui a donné une importance.
Une importance. Bon, pause musicale maintenant avec Henri Salvador, Les Jardins d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Et oui, elle écoute des échos. Un moment de douceur avec Henri Salvador. Hein, donc un jardin d'hiver, même si nous sommes en été, avec la canicule. Et avant de conclure, j'espère que vous pourrez dire deux mots, notamment Antoine, concernant les feux, qui sont catastrophiques pour la nature, les arbres, ainsi que pour les randonnées, et que nous savons sur Marseille, ne serait-ce que depuis le mois de juin approximativement, tous les massifs sont fermés, interdits quasiment pour les randonneurs de pouvoir emprunter tous ces chemins de randonnée. N'est-ce pas Antoine ?
Sur le feu, c'est vrai que je risque de dire plus que deux mots parce qu'en fait, un de nos projets phares du moment s'appelle l'École du feu et il a pris pied l'année dernière suite aux incendies des Pins Mirabeau qui sont ensuite rentrés jusqu'à l'Estaque le 8 juillet. Le même jour, le lieu où on était à Sainte-Marthe, dans les Hauts-de-Sainte-Marthe, a aussi pris feu. Et il se trouve que suite à cet incendie, il y a eu un collectif qui s'est mis en place, le collectif du 8 juillet. Et au sein de ce collectif, il y avait différents groupes de travail. Donc un qui s'occuperait des assurances, des sinistrés, voir comment reconstruire. Mais d'autres qui étaient plus dans la recherche des causes de cet incendie. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Et essayer de comprendre comment est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et en fait, il se trouve qu'on était mêlés à cette dynamique-là, ce qui a donné un projet de recherche-action qui s'appelle l'École du feu. Et l'idée de cette École du feu, c'était de voir comment nos formes d'habitat, en lisière, notamment en lisière des massifs forestiers, créent des paysages qui sont
totalement inflammable et propice au risque incendie. Et donc ça permet de remonter, cette compréhension permet de convoquer un peu l'histoire et de dire que avant, les massifs forestiers n'étaient pas délaissés, ils étaient des zones de pâturage pour les moutons, des zones de cueillette, aussi des zones où on coupait de l'arbre, de bois de chauffe, puis qui se sont peu à peu fermés avec le développement des États et la fermeture des forêts au moment de la nationalisation du territoire. Ce qui aboutit aujourd'hui à une sorte de lisière où, à part des projets immobiliers, il n'y a pas vraiment d'un véritable intérêt. Et donc, en fait, on habite au milieu d'une pinède qui est totalement inflammable parce que les pins sont des espèces colonisatrices qui remplacent les anciennes essences de chênes et de feuillus. Donc, ça permet de rentrer un peu en profondeur là-dedans, ce qui est assez intéressant. Et en fait, à travers cette question un peu de l'urbanisme qui peut paraître assez loin de nos préoccupations actuelles avec la Gironde et ses 44 000 hectares, en fait sur l'après-feu, surtout nous, c'était surtout sur ça que c'était intéressant de travailler, c'est que l'après-feu, parmi les sinistrés avec lesquels on travaillait, qui était plus ou moins lourd par rapport à d'autres, en fait ça permet vraiment d'accompagner après le trauma de voir son paysage, sa maison ou de perdre beaucoup de choses, ça permet assez peu de comprendre et de voir comment est-ce que plutôt que de lutter en permanence contre un risque incendie qui se développe de plus en plus avec des incendies qui partent de partout et les médias qui nous disent il faut plus de Canadair, il faut plus de moyens. En fait, cette réponse militaire qui fait tout reposer sur les pompiers, sur la sécurité civile, aujourd'hui, pour avoir côtoyé au cours de ce projet de recherche-action qui est toujours en cours un certain nombre de gens de la sécurité civile, cette démarche n'est pas spécialement suffisante et il faut vraiment qu'il y ait une coopération avec les habitants, les communautés, la société civile pour réapprendre à habiter les territoires de lisière, construire différemment ces maisons avec d'autres matériaux, gérer ces périmètres de débroussaillement, mais autrement que comme simplement une obligation qu'on devrait avoir à faire, sinon on se fait sanctionner. Ça incite aussi à se mettre ensemble avec les voisins avec lesquels on habite en lisière pour instaurer des méthodes de pâturage. Enfin bref, c'est quelque chose qui est très intéressant pour poser ces questions. Et sinon, pour la question que tu posais au tout début sur les massifs et sur les départs de feu, nous, spécialement au Bureau des Guides, on n'est pas nécessairement touchés parce qu'on fait quand même beaucoup de randonnées urbaines ou périurbaines. C'est juste qu'en été, on fait pas de balade parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est compliqué de faire une journée de balade avec des gens. Mais autrement, ce qui est sûr, c'est quoi, quand on voit qu'en Gironde ou ailleurs, même sur le territoire métropolitain, t'as énormément de feux qui partent, ça implique de vraiment repenser les politiques publiques de gestion du risque, quoi. Autrement que sous le simple angle militaire. Ce qui est assez fertile, c'est qu'en fait, avec ces nouveaux territoires qui sont exposés au feu et à des méga-feux, ce qui sont dramatiques, terribles, tout ce qu'on veut, en fait, ces nouveaux territoires exposés au feu, ils n'ont pas d'organisation préexistante de gestion des feux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passif où ils se disaient, comme nous, on peut l'avoir dans les Bouches-du-Rhône, où il y a déjà des organisations qui existaient et qui s'engueulaient plus ou moins ou qui ne fonctionnaient pas. Là, le fait qu'il y ait des nouveaux territoires qui soient exposés au feu, c'est terrible, mais en même temps, ça permet peut-être de créer des nouvelles formes de coopération entre les habitants et les institutions, plutôt que les deux fonctionnant en sillon avec les institutions qui disent « on sait, vous savez pas, taisez-vous », et les habitants qui disent « on sait, mais on n'a pas de moyens, s'il vous plaît, aidez-nous ». Enfin, ça, c'est assez fertile, quoi.
Oui. Donc moi, je pense que l'autre phénomène, ce que j'observe, c'est que malheureusement, il y a très peu de personnes issues des quartiers populaires qui soient représentées dans les pompiers. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez pu observer que la diversité n'est pas représentée, n'est pas représentative, que dans notre quartier, l'autre point que nous pouvons soulever, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont formées au premier secours, malheureusement. Mmh. Et que s'il y a eu un feu, il y a eu quelques années au Flamand, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans un immeuble qui est toujours fermé actuellement, le bâtiment est toujours clôturé, c'est qu'il y a des gens qui ont sauté de troisième, quatrième. Au rôle, il me semble que ça serait indispensable d'avoir un lieu où il pourrait y avoir des gens formés, ne serait-ce que des serfils, c'est-à-dire des personnes responsables avec des lieux de rassemblement, dans le cas où il y aurait un feu qui prendrait dans un des bâtiments. C'est ce qui est complètement affolant, et dire effectivement qu'il y a un problème au niveau d'une réflexion sérieuse que les politiques peuvent avoir pour savoir comment réagir s'il y a un feu, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui tombe suite à une crise cardiaque, comment faire et comment réagir. qui c'est qui pourrait le faire. Puis après aussi, il y a l'utilisation, ne serait-ce que des ce que nous avons, nous aussi, des extincteurs, par exemple. Il y a tout ça aussi, dans ce contexte, qu'il faudrait que l'on puisse réfléchir dans nos quartiers, parce que c'est utile d'avoir des personnes formées et qui soient axées un peu là-dessus. Peut-être que du côté de l'ensemble Tour Sainte, artistique Tour Sainte, vous avez des gens qui sont formés, faut dire, grâce à la Croix-Rouge, au Secours Populaire ou autre, non ? Est-ce que vous avez pensé, parce qu'il y a toujours un peu ce souci aussi, parce que vous êtes entouré de pain aussi, non ?
Je dirais simplement qu'encore une fois, c'est des questions, pour ma part, je ne me suis pas posé, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est censé être acquis. Oui. Et là, je m'aperçois que c'est encore non. Rien n'est acquis aujourd'hui. Rien n'est logique dans la vie aujourd'hui. Et c'est vrai que mettre en place donc, un dispositif, en tout cas, d'information ou de formation au secours, c'est quelque chose qui se fait par les pompiers. Hein. Ils le font dans les écoles. Mais il y aurait peut-être matière éventuellement, oui, à réfléchir. Et pas se questionner, mais à réfléchir pour pouvoir mettre en place, en tout cas, des temps de formation hein, aux gestes de premier secours, à utiliser aussi un instincteur. Oui. Nous, on en a à l'église, et en tout cas à l'église dans le lieu, dans cette maison culturelle. Je vais arrêter de dire église. Mais n'empêche que ça fait partie quand même de son histoire. C'est une église quand même qui a 200 ans. Elle est bien plus ancienne que la Major. Dans le deuxième, elle est bien plus ancienne que la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. Donc, ça reste quand même. Et je dirais même que un lieu, une église, catho, géré par une personne qui est issue à un moment donné de la communauté musulmane. Moi, je suis. Mes parents sont musulmans et je gère ce lieu, quoi. Donc. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de symbolique, on ne peut pas faire plus fort que ça. Voilà. Oui. C'est ce que je voulais. Oui. Mais n'empêche que oui, l'IM a donné à la formation. Comment ?
Vous avez un défibrillateur là aussi sur votre lieu ?
Ça, j'aimerais bien, mais c'est hyper cher. Ça coûte 1 500 euros.
Oui, et pour savoir l'utiliser, alors que c'est utile, même ici, et je ne sais pas quel endroit, oui. Dans quel lieu, il y aurait quelque chose de cet ordre-là aussi.
Et c'est une obligation pour tous les lieux d'accueil.
Tout est indiqué, en fait, il suffit de suivre.
Oui, mais quel est le lieu ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un instrument de cet ordre-là qui est utile pour pouvoir sauver des vies aussi hein ?
Surtout que tous les lieux d'accueil ont l'obligation de l'avoir. Donc ça veut dire que vous, ici, vous devez l'avoir.
On devrait, mais bon, nous allons demander un financement.
Comme nous, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais comme nous, d'ailleurs, on devrait l'avoir, on ne l'a pas, parce que c'est trop cher. Mais c'est fou de dire que c'est trop cher pour pouvoir sauver une vie.
Eh oui. Donc nous allons revenir au sujet du jour. Après avoir rencontré, est-ce que vous pensez que... Je pense, moi... Tout simplement qu'il y a des possibilités, j'entends déjà que vous avez pris contact, que vous avez pris attache et que vous menez déjà des actions. Qu'est-ce que vous pensez en termes de projet à développer aussi entre la démarche que le bureau des guides, que ce soit l'ensemble artistique de Tour Sainte, vous pouvez développer et améliorer en termes de renforcement des liens, parce que comme on le soulevait tout à l'heure, il y a une nécessité de mutualisation des moyens humains. Puis après, matériel, ça reste à désirer encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors,
moi, j'en profite juste, comme tu disais, mamie, que quand on fait des balades, quand on fait des grosses balades dans les Hauts-de-Sainte-Marthe, on passe par chez vous à Tour Sainte, et de manière un peu concrète. On a une grosse balade prévue en mi-octobre, le dimanche 17 octobre, ou 18, je ne sais plus, enfin le dimanche 17 ou 18 octobre, dans les Hauts-de-Sainte-Marthe. Et en fait, l'objet de cette balade, c'est un peu de montrer comment tous les projets qu'il peut y avoir dans les Hauts-de-Sainte-Marthe, donc dont Tour Sainte fait partie, nous aussi, mais aussi les fermes, aussi on peut compter le marché des Flamands qui ouvrira en septembre, comment tout ça, en fait, et existe ensemble et peut coopérer. Donc ça, c'est un peu le sujet de la balade. Et la veille, on voulait, si vous êtes d'accord, à Tour Sainte, bien sûr, organiser le samedi une conférence d'un paysagiste qui s'appelle Christian Tamizier et qui a beaucoup travaillé au fait de patrimonialiser ou d'inscrire les bastides
ou certains châteaux ou d'autres éléments patrimoniaux des Hauts-de-Sainte-Marthe au monument historique ou à l'inventaire des monuments historiques pour essayer de les protéger de l'urbanisation dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ce monsieur fait aujourd'hui un certain âge et en fait, il se trouve qu'on n'a jamais enregistré de conférence de ce paysagiste-là qui a travaillé toute sa vie sur les Hauts-de-Sainte-Marthe et on se disait que c'était bien de le faire à Tours-Sainte pour garder une trace, une archive de l'histoire du territoire racontée par lui. Et effectivement, on se disait Tours-Sainte, c'était un très chouette endroit symboliquement pour faire cette conférence et la balade du lendemain. Enfin, voilà, ça c'était pour plus...
Oui, moi, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que, comme tu le disais, Jean-Pierre, tout à l'heure, Fonte Obscure, les gens ne connaissent pas forcément. Les Hauts-de-Sainte-Marthe, c'est la même chose. Hein. Moi, je vois simplement la cité La Paternelle qui est à côté, mais pas que. Mais qui ne connaissent pas les Hauts-de-Sainte-Marthe, en tout cas pour beaucoup. Pour les anciens, oui. En tout cas, ceux de ma génération, parce que moi, quand j'étais petit, j'allais chercher le lait à la ferme pédagogique. Donc, j'allais avec mon grand-père. Donc, c'est comme ça que j'ai connu, d'ailleurs, les Hauts-de-Sainte-Marthe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui ne connaissent pas les lieux. Et surtout qu'il y a des terrains en friche. Mmh. Il y a des terrains en friche, il y a des terrains en friche qui deviennent finalement des terrains aussi agricoles. Mmh. Comment faire justement pour que les habitants, qui sont quand même à côté, proches, puissent éventuellement bénéficier éventuellement de ces parcelles et qui puissent éventuellement se regrouper et en faire en tout cas des jardins partagés, pas forcément des jardins partagés, pardon. Quand je dis partagés, c'est qu'ils partagent un terrain ensemble, donc c'est là où je voulais dire plutôt un jardin collectif, voilà. Mais qui partage tous ensemble, en tout cas une grande parcelle, et qui puisse éventuellement, oui, chacun a pendant ses disponibilités, son envie, et surtout s'il a la main verte, parce qu'il faut quand même avoir la main verte pour faire pousser des belles choses.
Voilà. Dans autre, mais... nous avons des informations concernant la transhumance. Vous avez entendu parler des moutons qui traversent le quartier et qui va d'un point à un autre. Je ne sais pas d'où ça sort, d'où ça vient et s'il y a une ferme, s'il y a une possibilité que les... mais pas si, si, ouais. Aussi dans le quartier. Ouais, ouais. Alors, est-ce qui c'est qui a des informations? Parce que je suis toujours surpris de savoir que des moutons traversent le quartier.
Alors, il y a des chances que j'en ai. Si tu penses à une transhumance qui a eu lieu il n'y a pas longtemps,
oui,
qui partait
ça
des
fait deux ans, oui.
Ah, ça, elle partait, bah, cette année, elle partait de la maison Lul dont je parlais précédemment. Et elle allait jusqu'à l'ancienne ferme pédagogique de la Tour du Pin. Et la transhumance, le troupeau, l'association qui gère le troupeau s'appelle les Moutons Marseillais, gérée par Maïté. Et c'est des moutons qui ont un travail. Et leur travail, c'est de débroussailler. Et donc, pareil, on parlait de nos questions de feu et de débroussaillement pour faire attention aux masses de végétaux combustibles. Aujourd'hui, c'est vrai que la question du débroussaillement par les troupeaux de moutons ou de chèvres est une vraie question. Et donc, de base, le troupeau des Moutons Marseillais était vraiment utilisé pour débroussailler, mais sans forcément qu'il y ait cette logique, cette question qui se pose. Et aujourd'hui, nous, on se la pose par rapport à ça. Et en termes de transhumance, ce qu'on aime bien faire aussi... Avec les balades, c'est que quand on se balade avec une quinzaine de moutons, ça change beaucoup l'ambiance de la balade. Et ça, c'est un souvenir de la transhumance de l'année dernière, qui était plutôt en octobre-novembre, et qui avait lieu depuis la gare de Saint-Antoine, en passant par la Bricarde, la Castellane, et qui finissait au parc à côté du Merlin. Enfin bref, c'était vraiment excellent, parce que c'est vrai que quand c'est un énorme travail de préparation avec les habitants et les acteurs. Mais par contre, quand tu vois le résultat avec 100-150 personnes pour genre 10-15 moutons, c'est vraiment génial, tu vois. Tu brasses plein de gens. Enfin, je trouve que c'est le truc qui est vraiment, moi dans mon expérience du bureau des guides, qui a vraiment brassé le plus de gens à la fois du centre-ville et à la fois des quartiers. Donc vraiment, la traversée des moutons à la Castellane, c'était vraiment mémorable, quoi. Mais du coup, voilà, c'est les Moutons Marseillais, l'association.
Voilà, donc avant de nous quitter, nous allons demander à chacun de nos invités de partager un dernier coup de cœur. Un lieu qu'il aime particulièrement, un livre, une chanson, une œuvre, un paysage qui l'inspire. Et surtout, une invitation adressée à nos auditrices, à nos auditeurs, sortir, marcher, créer, rencontrer. Bref, continuer à faire vivre notre territoire. Merci à Antoine Yonnet, Mamie Timrich, Lys Desjouve d'avoir partagé cette émission avec nous. Pause musicale. Après. D'accord.
Oui. Nous, en tout cas, on aimerait bien parler aussi de ce qui va se passer à Tours-Sainte dans les jours, à venir. Oui.
Donc, les prochains événements, il y a ce vendredi, le 31 juillet, une fête à Tours-Sainte. avec de la musique, des jeux, la pétanque, autour d'un repas partagé. Dans la même ambiance, il y aura aussi une fête le 8 août, un samedi. Pareil, musique, à manger, à boire, etc.
Avec le thème quand même les années 80 et ambiance antillaise.
Ensuite, dans les événements, il y aura aussi le 10 août une projection de film en lien avec le centre social de Sainte-Marthe. Donc ça sera en soirée, un film plutôt familial. Et enfin, une jam le 22 août à Tours-Sainte. Donc c'est comme un bœuf, c'est de l'improvisation avec plein de musiciens qui seront sur place. Donc si vous êtes musicien, musicienne, on vous invite à venir le 22 août. Et pendant tout août, on accueille les enfants les mardis, mercredis et jeudis après-midi autour de différentes activités, arts plastiques, jeux de société, pétanque, différents. Le jardin aussi qui est ouvert toujours. Donc voilà.
Et pour rajouter ce que disait Lise, c'est que à toutes les personnes qui ont des enfants auxquels donc, ils ont des fois des problèmes de garderie, nous, en tout cas à Tours-Sainte, les enfants sont les bienvenus et surtout qu'il y a un espace pour eux. Donc avec des jeux, pendant que les parents écoutent la musique, sauf si les enfants ont envie aussi d'écouter la musique, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a des enfants qui s'ennuient un petit peu quand il y a des concerts. Donc venez avec vos enfants et vos enfants, en tout cas, ils auront aussi un lieu pour eux où ils pourront partager que ce soit des jeux de société, des jeux de table ou autre chose.
Merci pour les communiqués, mais cela ne vous dédouane pas de répondre à la question posée par Guy. Ça, c'est une chose. Puis après, la seconde chose, c'est de communiquer un numéro de téléphone, une façon de pouvoir vous coordonner pour que les uns et les autres puissent aussi vous interroger, vous demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc., comment vous joindre en gros. Alors, la question posée par Guy, le livre, le paysage, qu'est-ce qu'il voilà, retenir ?
Ah, un coup de cœur ?
Un coup de cœur, oui.
Un livre, une chanson.
Bon, ce n'est pas chez l'heure, parce que tu n'as pas connu ni Claude François. Ni...
Non, mais vous avez parlé d'un paysage, et moi là, je pense tout de suite à la vue depuis... Tours-Sainte, c'est pour ça que j'ai fait mon stage là-bas, je pense. C'est qu'on est en haut de la colline et donc on a la vue sur la ville et sur la mer. Donc c'est mon coup de cœur à partager. Venez voir la vue à Tours-Sainte.
Voilà. Alors l'adresse, les coordonnées.
Alors l'adresse, c'est au 14 Traverse de Tours-Sainte, donc dans le 14e. Pour nous joindre, on a un mail collectiftoursainte@gmail.com ou un numéro de téléphone 06 25 88 54 47. Et sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Ensemble Artistique Tours-Sainte.
Vous avez Facebook ?
Facebook, Instagram, on a aussi une page Hello Asso.
Vous êtes moderne ou quoi ?
On est moderne.
Moi, je ne suis pas.
Et on a un groupe WhatsApp où on diffuse toutes les informations, d'accord, si vous voulez.
Ok. Donc, le mois d'août, fermé, ouvert, comment ça fonctionne, les congés ?
Comme je disais, c'est ouvert. On accueille notamment... les mardis, mercredis et jeudi après-midi, d'accord, les enfants, plus tous les événements.
Eh bien, c'est bien de savoir si vous êtes ouvert tout au mois d'août, parce qu'y compris les centres sociaux ferment à un moment donné en termes d'organisation aussi.
Oui, mais on rappelle quand même que nous ne sommes pas un centre d'accueil pour mineurs, hein, les ACM, les centres aérés, les CLSH pour les plus... Les anciens, ils connaissaient ça. En tout cas, bon, c'est comme ça que j'appelais les centres aérés, le CLSH. On n'est pas un CLSH, on n'est pas un centre aéré. Nous, on reçoit les enfants et de préférence avec les parents. D'essayer que les parents viennent aussi et prennent un temps avec leurs enfants. Jouer, découvrir le lieu, partager des bons moments. Voilà.
Eh bien, merci. C'est important de savoir qu'il y a ce lieu, cette possibilité d'accueil aussi pour les familles, parents, enfants. Alors, Antoine, oui,
oui, moi, simplement le coup de cœur, là, c'est parce que je suis en face de l'affiche Mémoire d'avenir. Alors je dis mémoire, oui c'est super, l'avenir aussi, ça y compte énormément, donc voilà, de François Zéga. Voilà, je vois l'affiche et ça m'inspire et ça me fait rêver.
Voilà, tout à fait. Merci. Alors, pour ce coup de cœur, Antoine.
Alors, moi, je vais faire le faillot aussi. C'est vrai que sur les lieux, là, tout de suite, vraiment, qui sont, je trouve, importants à visiter, c'est vrai que l'exposition du comité Maméga, elle est vraiment bien. Donc quand même, on y apprend beaucoup de choses sur l'histoire. Et sur les livres, bon, pareil, je vais failloter, mais en ce moment, je bosse beaucoup sur Sainte-Marthe. Donc, je lis beaucoup de choses. Et c'est vrai que Là, les prochains livres qu'il faut que je mette dans notre travail, c'est Monsieur Thiers, Marchand de Bonheur.
Marchand de Bien.
Marchand de Bien, pardon. Mais voilà, qui est, enfin, pareil, je trouve que c'est une excellente ressource et c'est rare d'avoir des témoignages comme ça. Lettre à une noire de Françoise Zéga, qui était vraiment bien. Les films d'Alain Dufaux aussi, Au nom de l'urgence, qui donne des visuels absolument ahurissants sur l'ancien Grand Saint-Barthélemy avec les collines, les ruisseaux, c'est assez dingue. Et sur la musique, un coup de cœur. Tout à l'heure, on parlait de Marseille, capitale de la culture. Et c'est vrai qu'il y a une chanson de Kenny Arcana que je trouve assez belle, qui s'appelle Marseille, capitale de la rupture, qui est assez juste, je trouve.
Merci beaucoup. Merci. Nous allons commencer par la demoiselle Lise. Merci de ta venue. Et nous allons remercier aussi Antoine et enfin Mamie, qui est un peu plus âgée que les deux autres qui sont nés après 2000, n'est-ce pas ? Donc merci beaucoup pour vos interventions. Mais comment contacter ?
Alors pour les contacts du Bureau des Guides, mon numéro c'est 06 52 01 66 59. Sinon, notre mail c'est contact@gr2013.fr. On a un site internet, on a une page Instagram, on n'a pas de Facebook, voilà.
Donc, au-delà de ça, c'est pour septembre, vous redémarrez au mois de septembre, les randonnées ?
On redémarre la programmation au mois de septembre, ouais. On a beaucoup de balades, ouais.
D'accord, en perspective, c'est bien. Eh bien, je vous propose une autre pause musicale, c'est Dina, Que reste-t-il ? Donc moi, bon, nous avons le drapeau palestinien, donc nous avons un engagement, nous sommes proches du peuple kanak, etc. Donc c'est un morceau qui aborde un peu ces différentes problématiques de peuples qui sont opprimés et qui sont dans la résistance, c'est une façon de lutter contre l'oppression. Merci Sidi, allez, à bientôt, merci à nos invités.
Génocide sur les journaux des mots tristes. Ça me rend émotif sur les murs de la cité. Graffiti Free Palestine, les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui t'émotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. On va pas se laisser taire. Y'a trop d'innocents qui saignent, trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de cœur. C'est nous la résistance, comment faire leur douleur. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y'a des gens sous les bancs, mais on parle que des JO sur les ans. On a laissé le pouvoir à mes mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ans. C'est pour nos frères Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays. Sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité? De Gaza à Paname, tous concernés. Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé. Pour d'autres, tu sais, c'est la réalité. Hors d'histoire, ne nous ont-ils rien enseigné? 2024, on se tire encore dessus pour une divinité qu'il a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur. Sans tuer les cœurs, se serrer, même en terre brûlée, il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos soeurs Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries. Sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. 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 C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. C'est Mandela, d'un monde où on s'accepte, où on se respecte. Peu importe la gueule, peu importe l'âge, la religion, le genre, le langage. Personne fuit les balles. Personne fuit les balles. Personne fuit les balles.
Eh oui, merci Sidi. Dernière partie avec les communiqués. Nous allons démarrer avec le Centre social Saint-Barthélemy, ex-MFA, Maison des familles et des associations, qui se situe avenue Salvador Allende. Et c'est un centre social qui fermera à partir du 21 août. Chaque semaine, on peut retrouver du renforcement musculaire les lundis et mercredis de 18h à 19h30. On peut retrouver de la pétanque les mardis de 18h à 20h, des animations hors les murs de 18h à 20h en pied d'immeuble à fond vert le lundi, à la CNCF le mercredi et à la Benos le jeudi. Le centre propose également une permanence d'accès au droit le jeudi matin, ainsi qu'un atelier par enfant le lundi matin. Il faut noter dans vos agendas, le 30 juillet, il y a un repas partagé à la Benos de midi à 16h, le 31 juillet, soirée karaoké, 7 août, soirée bal masqué, 14 août, tournoi disco pétanque, 21 août, grande soirée de clôture avec DJ et piste de danse. Alors voilà, vous êtes invités à partager ce moment de fête. Toutes les soirées se déroulent à partir de 18h jusqu'à 23h. Pour tout renseignement, vous composez le 04 91 02 35 75.
Et maintenant, direction l'Agora. Le centre aéré se termine le 7 août, mais le centre social reste ouvert jusqu'au 21 août. Au programme, semaine du 3 août, village olympique, les mardis, mercredis, jeudi, à partir de 19h. La semaine du 10 août, apéro d'été au pied de l'immeuble de 19 à 20h, mardi à Picon, mercredi au Mail, jeudi à la Busserine, 12 août à 20h, cinéma en plein air avec le pop-corn offert. Plus d'informations au 04 91 02 37 31.
On termine avec le centre social Flamand-Hérisse. Le centre restera ouvert jusqu'au 21 août au soir et rouvrira ses portes le lundi 7 septembre jusqu'au 7 août. Des animations hors les murs sont proposées les lundis, mardis et mercredis de 17h30 à 19h30 à la Citadelle, au Château Venteau et aux Iris. Les soirées de l'été se poursuivent également sur la place des Flamands de 18h à 20h avec des animations pour petits et grands. Jeudi 30 juillet, ce soir, atelier scientifique, parcours sportif et baby-foot géant. Jeudi 13 août, la semaine prochaine, loto convivial et animation pour les enfants. Et pour profiter pleinement de l'été, le centre social propose aussi des sorties en famille vers les Sainte-Marie-de-la-Mer, le Frioul ou encore le Bois des Lutins. À ne pas manquer également, vendredi 7 août, dès 15h, place des Flamands. Grande fête avec structure gonflable, barbecue et DJ. Jeudi 20 août, à partir de 19h, repas partagé, et soirée blend test. Le centre organise également un séjour pour les enfants dans les Hautes-Alpes. Plus d'informations au 06 50 20 70 91. Je répète, 06 50 20 70 91.
Avant de refermer cette émission, nous souhaitons adresser une pensée à toutes les personnes sinistrées par les incendies, ainsi qu'aux pompiers, aux bénévoles et à toutes celles et ceux qui, avec courage et détermination, luttent contre ce fléau qui ravage nos territoires.
Nous voulons également témoigner notre soutien à notre amie Latifa, à la Busserine. Certains commerces sont bien plus que de simples lieux où l'on vient faire ses courses ou partager un repas. Ils font partie de notre histoire, de notre mémoire collective et de l'identité du quartier. Depuis de nombreuses années, Latifa accueille les habitants avec le sourire, dans la continuité de l'engagement de son père, figure historique de la Busserine. Mais ces dernières années ont été particulièrement difficiles. Les travaux de la L2 ont entraîné la disparition de son commerce historique. Après de longues années d'attente, de nuisances et de démarches administratives, elle a finalement été relogée dans un snack neuf et climatisé. Malheureusement, une grande partie de sa clientèle ne l'a pas suivi et son activité s'est fortement fragilisée. Depuis plusieurs années, elle poursuit également un long combat pour faire reconnaître ses droits auprès de son bailleur. Cette épreuve s'ajoute aujourd'hui à des difficultés économiques qui menacent directement son avenir. Si rien n'est fait, Latifa risque de perdre son commerce, son gagne-pain et avec lui son logement. Au-delà de son histoire personnelle, c'est une part de la mémoire de la Busserine qui pourrait disparaître. C'est pourquoi une cagnotte solidaire a été lancée pour lui venir en aide. Chaque don, même modeste, peut faire la différence. Et si vous ne pouvez pas participer financièrement, vous pouvez simplement partager cette initiative autour de vous. La solidarité a toujours été l'une des grandes forces de la Busserine. Aujourd'hui, montrons à Latifa qu'elle n'est pas seule. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre soutien.
Et oui, merci également à nos invités, à Sidi, notre technicien historique, à Saïda, la voix des échos, à Guy et bien sûr à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Galère. Oui, Saïda, tu me regardes avec des yeux revolvers.
Oui.
Nous rappelons que les échos du Grand Saint-Barthélemy existent grâce au soutien de la politique de la ville, de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous vous donnons rendez-vous donc le 24 septembre pour une nouvelle émission consacrée aux initiatives qui font vivre nos quartiers. D'ici là, nous pouvons vous dire que de prendre soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez jamais que la meilleure façon de découvrir un territoire est d'aller à la rencontre de celles et de ceux qui les font vivre au quotidien. Nous vous souhaitons de passer un très bel été à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Galère. Nous vous proposons, en sachant que le 24 septembre, après, en théorie, nous devrions recevoir la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Et sur ce, nous ajouterons aussi un ami qui a composé la chanson des enfants des quartiers nord, Daniel Baume, qui sera présent et notamment qui a composé aussi un morceau en solidarité avec la Palestine et avec les enfants de la Palestine. Le morceau, ça peut s'intituler « Nous les enfants de Gaza ». Il est accompagné par Hakim Hamidouche qui fait partie des artistes bien connus de Marseille. Il n'est pas parisien. Moi, je revendique de chez nous et non de Paris. Voilà. Merci Sidi et à très très bientôt et au mois de septembre. Bye bye.
Nous les enfants de Gaza, notre pays.